Vous écoutez France Culture.
Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Premier départ de combattants de l'enclave d'Idleb dans le nord-ouest syrien. Précision dans un instant d'Aurélien Colli. Au sommaire de cette édition, le portrait de la mairesse de Dakar élue hier, Soham El-Wardini. Les enjeux du congrès des Tories qui s'ouvre aujourd'hui à Birmingham. Les remous en France causés par un manifeste pour l'accueil des migrants. Remous à gauche. Au sommaire cette fois de la face cachée du globe, la guerre au Sud-Soudan. Des chars et des canons convoyés dans le sud de la province d'Alep et dans la banlieue ouest de la ville. Ce sont là les premières mises en œuvre de l'accord russo-turc signé le 17 septembre dernier. Accord censé différer l'offensive du régime sur la dernière enclave dite rebelle du territoire syrien, la province d'Idleb. Bonjour Aurélien Colli.
Bonjour.
Aurélien, vous êtes en direct de Beyrouth. Ces armes lourdes appartiennent manifestement aux unités d'un des principaux groupes de combattants.
Oui, les chars, les canons dont vous parliez retirés sont ceux des unités de Faylaq al-Sham, deuxième groupe rebelle le plus puissant dans le nord de la Syrie en termes d'armement, troisième groupe en termes de combattants avec 8 à 10 000 hommes. Il fait partie en fait du Front National de Libération, coalition de groupes rebelles combattant sous la bannière de l'armée syrienne libre, une coalition formée en août sous l'impulsion de la Turquie et considérée comme modérée. Alors ces premiers retraits sont logiques, si je puis dire, compte tenu de la tutelle turque sur cette coalition. Ils devraient se poursuivre dans d'autres points de la ligne de front concernée par la future zone tampon russo-turque contrôlée par cette coalition. Mais attention, la coalition dominante dans la province d'Idleb, celle qui contrôle aussi une bonne partie de la ligne de front incluse dans la future zone tampon, c'est celle des djihadistes considérés comme radicaux. L'alliance Tahrir al-Sham, composée en grande partie de combattants de l'ancien front al-Nosra affilié à Al-Qaïda. Cette coalition, elle, n'a toujours pas réagi à l'accord russo-turc. Or, l'un des enjeux de cet accord, c'est l'éradication de ces djihadistes, donc une séparation entre leur coalition et celle des modérés. Et pour l'instant, on en est encore loin. Alors si cette coalition djihadiste ne se retirerait pas de la future zone tampon, elle s'exposerait, ce n'est pas dans son intérêt. Si elle se retire aussi, eh bien la question djihadiste ne sera pas réglée, alors que c'est ce que Moscou attend d'Ankara et c'est aussi le scénario qui conviendrait aux Occidentaux.
Merci à vous Aurélien Colli en direct de Beyrouth. Plus de 3 millions d'électeurs du Kurdistan irakien appelés aux urnes pour des législatives avec de lourds enjeux, parmi lesquels la reconstruction économique de la région autonome. Aujourd'hui, les législatives au Kurdistan et demain, l'élection à Bagdad du président irakien, poste qui, selon la constitution de 2005, revient à un élu kurde. L'émissaire de l'ONU en Libye confirme, lui, ce que plusieurs diplomates et analystes avaient articulé à la fin du mois de mai à Paris, lors de la réception à l'Élysée des principaux protagonistes du conflit. Ghassem Salamé déclare qu'il sera difficile de tenir le calendrier qui prévoit des élections au 10 décembre prochain. La Libye est en effet parcourue de violence et la structuration politique est au point mort. Dakar, dirigé pour la première fois de son histoire par une femme, à tout le moins jusqu'en décembre 2019. Soham El-Wardini occupe désormais le poste laissé vacant et pour cause par Khalifa Sall, condamné à 5 ans de prison pour détournement de fonds publics. William de Lesseux de RFI a assisté au sacre hier de Soham El-Wardini.
Le résultat tombe et résonne dans tout l'hôtel de ville. 64 voix pour Soham El-Wardini sur 90 votants. La nouvelle maire prend la parole.
Fière d'être la première femme maire de la capitale du Sénégal. Et une pensée pour Khalifa Ababakar Sall, le maire de la ville de Dakar. Pour moi, c'est toujours mon maire. Je vous remercie. Le combat continue.
Derrière les barreaux, l'ex-maire Khalifa Sall a avalisé la candidature de sa première adjointe. Un choix logique pour l'élu d'Adam Boup.
C'est une femme combattante, une travailleuse. Elle mérite son poste. Parce que depuis qu'on a arrêté le maire de Dakar, c'est elle qui gère l'intérim de ce maire. La victoire de Soham El-Wardini est la victoire de Khalifa Sall.
D'après ses proches, c'est la victoire d'une femme loyale. Issue de la société civile, Soham El-Wardini est d'abord professeure d'anglais. Elle entre en politique en 1999 grâce à sa fibre sociale, d'après son frère Antoine Wardini.
Dans notre village, chaque fois qu'il y a des activités qui concernent les enfants, ou bien l'école, ou bien la santé, elle met sa mère là-dessus. Chaque vendredi saint, elle fait à manger pour tout son quartier.
Assise près de son futur bureau, l'élu veut maintenant rassembler tous les conseillers municipaux, y compris certains dissidents qui se sont présentés contre elle.
Je pense que les conseillers ont été assez responsables et consciencieux pour me laisser à la tête de cette ville et pour pouvoir peut-être terminer certains des projets qu'on avait décidé de finir avec Dakar, avec les Dakarois.
D'après la nouvelle maire, en poste pour un an seulement, il est trop tôt pour penser à prolonger son mandat, plus qu'une possibilité avec l'élection municipale en décembre 2019.
Le président indonésien Joko Widodo est arrivé il y a quelques heures à Palu, sur l'île des Célèbes, dévastée par un séisme suivi d'un tsunami. Dernier bilan communiqué par les autorités, 832 morts. La région proche de Donggala est toujours coupée du monde. Un rendez-vous délicat pour Theresa May. Sa formation, le Parti conservateur, tient son congrès d'aujourd'hui à mercredi à Birmingham. Et à 6 mois du Brexit, la première ministre britannique clôturera ce rendez-vous d'avance houleux après avoir résisté aux charges acharnées des tenants d'un divorce dur avec l'Union européenne. Aude Soufi est à Birmingham.
Theresa May se souvient sans doute encore du congrès de l'an dernier, un désastre. Interrompu par un manifestant et par une toux incontrôlable, les lettres de son slogan s'effondrant derrière elle, la première ministre avait eu bien du mal à arriver à la fin de son discours. Et cette année pourrait être aussi difficile. Isolée dans l'Union européenne et dans son propre pays, elle doit faire face à une formation politique extrêmement divisée. Obligée de ménager l'aile modérée de son parti sur laquelle repose sa stabilité, elle doit aussi compter avec les plus europhobes des Tories, partisans d'un Brexit dur, qui l'accusent de ne pas être assez ferme dans ses négociations avec l'Union européenne et de ne pas respecter le résultat du référendum de juin 2016. Son principal adversaire, Boris Johnson, s'en est de nouveau pris à sa gestion du Brexit il y a 2 jours, dénonçant dans une longue tribune l'humiliation intellectuelle et morale que représente selon lui le programme de sortie de l'Union européenne de Theresa May, le plan de Chequers qu'il qualifie de catastrophique. Mardi, l'ancien ministre des Affaires étrangères tiendra un meeting lors duquel beaucoup s'attendent à une nouvelle attaque contre la première ministre, mais il pourrait devoir revoir sa copie car selon un sondage publié hier, 87% des militants conservateurs veulent que leur parti fasse preuve d'unité autour de Theresa May.
Sur l'autre rive du Channel, le débat européen, pour le dire vite, n'est pas serein, ni à droite, ni à gauche. À gauche, justement, où le dernier épisode épineux en date prend la forme d'un manifeste. Manifeste pour l'accueil des migrants paru dans Mediapart, Politis ou encore la revue Regard. Ses auteurs, intellectuels, artistes et des leaders de gauche tels que Benoît Hamon, Yannick Jadot, Yann Brossa, la France insoumise n'est représentée que par Clémentine Autain. Bonjour Laura Dulieu.
Bonjour.
Laura, ce texte embarrasse, pour ne pas dire irrite, Jean-Luc Mélenchon et les siens.
Oui, en substance, ce texte plaide pour l'accueil des réfugiés et fustige l'idée selon laquelle l'immigration est responsable de tous les maux en France. Une idée, selon le manifeste, imposée par l'extrême droite, trop souvent reprise par la droite, et c'est là que c'est intéressant, qui tenterait même une partie de la gauche. L'allusion à Jean-Luc Mélenchon est claire. Alors c'est vrai que pour le leader de la France insoumise, l'immigration est un sujet compliqué. Il est tiraillé avec, d'un côté, une tradition d'accueil et humaniste propre à la gauche, mais aussi, de l'autre côté, une position eurosceptique et un goût prononcé pour les frontières, avec l'argument que le patronat se sert des migrants pour faire baisser les salaires. Cette ligne, beaucoup à gauche la juge dangereuse et accuse Jean-Luc Mélenchon de jouer avec le feu.
Et Laura, un jeu d'équilibriste, ce qui n'est pas nouveau.
Oui, récemment, le leader de la France insoumise a désavoué publiquement l'un de ses porte-parole, Jorge Kuzmanovic. Ce dernier expliquait dans une interview à l'Obs que la bonne conscience de gauche empêche de réfléchir concrètement à la façon de ralentir, voire d'assécher les flux migratoires. Face à la polémique, Jean-Luc Mélenchon avait pris ses distances avec cette position. Mais cette fracture à gauche est encore plus ancienne. C'est celle qui séparerait les idéalistes et les réalistes. On se souvient par exemple, et dans un autre contexte, d'une gauche déchirée en 2015 à propos de la déchéance de nationalité qui avait abouti à la déstabilisation de la majorité et finalement de François Hollande lui-même. Alors l'ombre de ces fractures plane sur la campagne des européennes qui tournera autour des questions migratoires et qui visiblement continuera à opposer deux gauches irréconciliables.
Merci à vous Laura Dulieu. Il est 12h39, c'est l'heure de la face cachée du Globe signée ce dimanche Myriam El Kurdi. Bonjour.
Bonjour Mathieu. Entre le discours et la réalité au Qatar, alors que Doha a annoncé il y a 2 semaines une réforme de son système dit de kafala, selon lequel le salarié a besoin de l'accord de son employeur, par exemple pour quitter le pays, Amnesty International révèle qu'une entreprise d'ingénierie n'a pas rémunéré des dizaines d'ouvriers pendant plusieurs mois, des ouvriers d'Asie du Sud-Est qui travaillent sur les chantiers de la Coupe du Monde 2022. Mais que se passe-t-il au Burkina Faso? Le pays avait longtemps été préservé des attaques djihadistes. Regain de violence cette semaine. Mercredi, 8 soldats ont été tués dans l'explosion d'une mine artisanale dans le nord du pays. 2 jours avant, 2 étrangers et leur chauffeur ont été enlevés et 2 gendarmes tués. Au Venezuela, c'était une solution mise en avant par le gouvernement pour contourner les sanctions financières des États-Unis. la crypto-monnaie. 6 mois après sa mise en vente, elle ne peut toujours pas être échangée contre de l'argent, des biens ou d'autres crypto-monnaies. C'est un conflit très peu médiatisé, alors que son bilan humain est particulièrement lourd, celui du Soudan du Sud. La guerre civile qui frappe le pays depuis décembre 2013 a fait près de 400 000 morts en 5 ans. C'est ce que révèle un rapport d'un centre de recherche britannique spécialisé dans la santé publique. Le conflit oppose les forces du président Salva Kiir et les combattants fidèles à son ex-vice-président Riek Machar. Marc Lavergne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géopolitologue, directeur de recherche au CNRS, spécialiste du Soudan. 400 000 morts en 5 ans au Soudan du Sud. On imagine l'ampleur des violences, des combats sanglants. Mais pas seulement, ce bilan illustre aussi le drame humanitaire qui touche le pays, Marc Lavergne.
Oui, en effet, parce que il y a eu des violences qui ont été abondamment signalées par les forces de l'ONU qui étaient présentes sur place et puis aussi les organisations humanitaires. Mais il faut bien voir que c'est un pays qui n'a aucune infrastructure médicale, sanitaire et qui a des conditions naturelles aussi assez défavorables, hein, qu'elles soient climatiques ou en termes de malaria, en termes de maladies. Et il y a eu la famine aussi qui s'est déclenchée à la suite de l'interruption de tous les circuits d'approvisionnement malgré les efforts de certaines organisations de l'ONU, comme le Programme alimentaire mondial, pour ravitailler les gens. La comptabilisation de ces 400 000 morts, elle inclut aussi ces victimes collatérales, je dirais, du fait de la famine, du fait des maladies.
Il y a tout à reconstruire.
En effet, il n'y a jamais eu rien de construit au Sud-Soudan. C'est un pays où les habitants, qu'ils soient paysans ou nomades, n'ont ni eau, ni électricité, ni route, ni marché, ni école, ni hôpitaux. Donc tout est à faire. Et malheureusement, ce pays a eu des ressources qui sont importantes, puisque c'était de l'ordre de 5 milliards de dollars par an, à l'époque où le pétrole était à un prix assez élevé, mais il est revenu à un prix élevé, et cet argent a été systématiquement détourné par les gens qui sont au pouvoir. Donc ces gens-là sont toujours au pouvoir, hein. Il s'agit du président Salva Kiir et de son mouvement, le Mouvement pour la Libération des Peuples du Soudan, le MPLS, et puis son opposition à la tête duquel il y a Riek Machar, qui lui était vice-président, et qui l'un comme l'autre, finalement, doivent nourrir leurs troupes. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas vraiment une armée nationale et puis des groupes rebelles. Hein. Il y a des forces à peu près égales, réparties diversement dans le pays, qui maintenant s'appuient sur une base ethnique, ce qui aggrave encore la situation, parce que là, on joue sur des ressorts qui sont très difficiles à maîtriser.
C'est la fête la plus importante pour les chiites, qui représentent environ 15% des musulmans. La célébration d'Ashoura, c'était la semaine dernière. Ashoura marque l'anniversaire de la mort de Hussein, petit-fils du prophète Mahomet, tué en 680. Cette commémoration est souvent synonyme de vastes rassemblements publics. Et pour les chiites, c'est le moment d'exprimer avec un grand E leur foi. Au Liban, de plus en plus de fidèles gravent désormais leur amour des saints sur leur peau. L'essor des tatouages chiites. Reportage dans le sud de Beyrouth, l'un des fiefs du Hezbollah, signé Nicolas Feldman.
Et sur une grande avenue, des centaines d'hommes en noir se frappent la poitrine en signe de deuil. Le culte des figures de l'islam chiite est ici jusque gravé dans la peau. Sur le dos d'Hussein, un visage encadré de deux sabres. C'est celui d'Ali, le gendre du prophète Mahomet.
Nous sommes chiites, on se tatoue par amour pour la famille proche du prophète. Ce sont des symboles qui nous représentent.
Les sunnites, eux, ils disent que c'est interdit. En général, vous trouvez les tatouages chez les chiites ou les chrétiens.
Ces derniers jours, l'aiguille de Wael fonctionne au rythme des commémorations d'Ashura. Et sur le biceps d'un de ses clients, le tatoueur inscrit une prière chiite à l'encre noire.
Depuis 10 jours, je fais essentiellement des tatouages religieux. Le plus populaire pour les chiites, c'est le 313. C'est une référence à l'armée de l'imam Mahdi, celui qui a été occulté, doit réapparaître un jour. C'est une façon de garder ça en tête.
Des tatouages liés aussi à la guerre en Syrie voisine, où se sont engagés des milliers de partisans du Hezbollah.
La guerre en Syrie a fait exploser les tatouages. N'importe quel martyr est un ami. Donc si j'en ai un, je vais tatouer son visage. Je l'ai fait pour beaucoup de gens.
Une tendance au tatouage qui dépasse les représentations religieuses. La capitale libanaise compte aujourd'hui plusieurs dizaines de tatoueurs. Il n'était qu'une poignée il y a encore une quinzaine d'années.
Reportage signé Nicolas Feldman dans le sud de Beyrouth. Dans le reste du globe, c'est une première. Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé cette semaine de mettre en place un organe chargé de réunir des preuves sur les crimes les plus graves commis en Birmanie depuis 2011, notamment à l'encontre des Rohingyas. Bonne journée à tous.
Merci à vous, Mariam El Kurdi. On a appris il y a quelques minutes, malheureusement, la mort de René Pétillon, le dessinateur, père notamment du détective Jack Palmer. René Pétillon, qui intervenait régulièrement et avec talent dans les pages du Canard enchaîné, est décédé ce matin. C'est ce qu'annonce la maison d'édition d'Argo. Il avait 72 ans. Les très grandes lignes météo de l'après-midi, du soleil, sauf sur le sud-est et près de la Manche, température maximale comprise entre 16 et 27 degrés. Cette édition a été préparée avec Martin Desclozeaux, à la technique Jean-Guy Linmège.